et sociétés exotiques traditionnellement étudiées par les ethnologues. Et à repérer du coup une hiérarchisation des cultures, héritée d'une perspective évolutionniste darwinienne sur le modèle de la hiérarchisation des espèces, avec l'idée qu'il y aurait des évolués, ceux qui valorisent le sexe et maîtrisent le processus de leur reproduction, nous, bien entendu, et il y aurait à l'opposé des sociétés archaïques qui, au contraire, valoriseraient, voire survaloriseraient la reproduction au dépens de l'érotisme et de la liberté des femmes. Tout se passe donc comme si, pour nous, valoriser la reproduction allait nécessairement à l'encontre de la recherche de l'accession au plaisir sexuel, ce qui faisait doucement rigoler les aborigènes australiens qui trouvaient qu'effectivement, visiblement, on avait une grande peur de la reproduction, mais eux, faire l'amour en faisant des enfants, ça ne les empêche pas de viser le plaisir sexuel. Quoi qu'il en soit, ce constat m'a incité à me pencher sur nos représentations et nos pratiques concernant le sexe et la reproduction, celles des sociétés occidentales contemporaines, en prenant comme point de comparaison les représentations et les pratiques d'autres sociétés, en particulier celles des aborigènes australiens avec qui j'ai travaillé. Les films de science-fiction dont je vais vous montrer des extraits expriment selon moi l'idéologie occidentale se rapportant à la distinction forte établie chez nous entre sexe et reproduction. Je vous propose d'en présenter certains aspects avant de vous montrer les extraits de films. En 1898, vous vouliez voir les films, c'est ça. En 1898, Freud suggérait que l'un des plus grands triomphes de l'humanité, l'une des libérations les plus tangibles à l'égard de la contrainte de la nature à laquelle notre espèce est soumise, serait de réussir à élever la procréation au rang d'une action intentionnelle et volontaire et à la dégager de la sexualité proprement dite, c'est-à-dire à la désintriquer des actes érotiques visant à atteindre le plaisir sexuel. Un siècle plus tard, fin 1999, c'est-à-dire à la veille de l'an 2000, un petit article de Télérama proposait d'établir une liste de faits qui caractériserait l'humanité de l'an 2000 au regard de l'an 2100 et quelques. Et l'une des caractéristiques qui retenait plus particulièrement l'attention était, en l'an 2000, les gens étaient enfantés à l'intérieur de leur mère comme les animaux. Retenons ce fait. La maternité, la grossesse, l'enfantement naturel, la nécessité d'être englobé dans un corps de femme avant de naître relégueraient l'humanité au rang de l'animalité. Ce constat pourrait ne relever que de l'anecdote s'il ne constituait en fait une constante dans les œuvres de science-fiction qui touchent à la reproduction. De mon point de vue, les œuvres de science-fiction constituent une nouvelle forme de mythologie, au sens anthropologique du terme. Ça ne veut pas dire du coup que c'est des choses qui ne sont pas sérieuses, c'est au contraire très très sérieux, c'est la façon dont on métaphorise, on met en forme narrative l'idéologie. Et le premier mythe contemporain appartenant au genre problématique reproductive que la petite citation de Télérama nous remet en mémoire est « Le meilleur des mondes d'Huxley » publié en 1932. Les enfants y sont fabriqués au moyen d'utérus artificiels et élevés dans des centres spécialisés. Ce mode de reproduction industrielle est opposé à la viviparité, terme scientifique utilisé à dessein par Huxley et renvoyant à l'obligation d'en passer par un ventre féminin pour naître. La viviparité est ce qui distingue les mammifères des espèces ovipares qui pondent des œufs. Les femelles pondent leurs œufs chez les ovipares et c'est au sein des œufs, une fois pondus, que l'embryon se développe. Alors que chez les mammifères vivipares, l'embryon se développe au sein même du corps maternel. Dans le meilleur des mondes, la viviparité est perçue comme une infâme chose du passé, ne subsistant plus qu'à l'état de survivance honteuse dans quelques réserves de sauvages qu'on a entourées de barrières électrifiées pour que la contagion ne se propage pas. L'apogée de la civilisation correspond dans cette utopie à l'avènement de la stérilisation généralisée. Celle-ci s'accompagne de la disparition de la famille, du mariage, de toute forme de relations de parenté qui sont devenues autant d'obscénités. Si on se souvient généralement bien du fait que les enfants sont fabriqués en flacons dans le meilleur des mondes, on tend par contre à oublier que ce mode de reproduction est concomitant d'une survalorisation des pratiques sexuelles selon des normes malthusiennes, c'est-à-dire avec préservatif et facilité d'avortement. Alors si je parle de survalorisation, c'est que les gens sont obligés de pratiquer le sexe. Et quand il y en a qui ne veulent pas le faire, ils sont mal vus et envoyés chez les psys. De fait, dans ce mythe d'anticipation, la pornographie est rattachée non à la sexualité, mais à l'enfantement. Alors que les adultes s'adonnent à volonté aux activités érotiques, s'extasiant devant les ébats sexuels des bambins dans les cours de récréation, ils sont offusqués lorsqu'on leur rappelle l'origine vivipare de l'humanité. Et c'est ce qui va se passer quand le directeur de l'incubation et du conditionnement des bébés questionne les étudiants sur la signification du mot « parent ». Je cite donc Huxley. Il y eut un silence gêné. Plusieurs des jeunes gens rougirent. L'un d'eux, enfin, eut le courage de lever la main. « Les êtres humains, autrefois, étaient... » dit-il avec hésitation, le sang lui affluait aux joues. « Enfin, ils étaient vivipares !» Le pauvre garçon était éperdu de confusion. « En un mot, » résuma le directeur, « les parents étaient le père et la mère. » Cette ordure, qui était en réalité de la science, tomba avec fracas dans le silence gêné de ces jeunes gens qui n'osaient plus se regarder. « La mère !» répéta-t-il très haut pour faire pénétrer bien à fond la science. « Ce sont là, dit-il gravement, des faits désagréables, je le sais. » Mais aussi, il faut bien se souvenir qu'en ces jours de grossière reproduction vivipare, les enfants étaient toujours élevés par leurs parents, et non dans des centres de conditionnement de l'État. Essayez de vous rendre compte de ce que c'était que d'avoir une mère vivipare. De nouveau ce mot ordurier. Essayez de vous imaginer ce que signifiait vivre dans sa famille. Ils essayèrent, mais manifestement sans le moindre succès. Et savez-vous ce qu'était un foyer ? Ils secouèrent la tête. Pareil à une folle furieuse, la mère couvait ses enfants, comme une chatte ses petits. Notre Freud avait été le premier à révéler des dangers épouvantables de la vie de famille. Le monde était plein de pères, était par conséquent plein de misère, plein de mères, et par conséquent de toute espèce de perversion depuis le sadisme jusqu'à la chasteté. Plein de frères, de sœurs, d'oncles, de tantes, plein de folies et de suicides. Fin de citation. Dans l'univers sans mère dépeint par Huxley, le plaisir sexuel est roi. Sexe et procréation sont posés comme fondamentalement antithétiques, la reproduction étant censée freiner l'accession au plaisir sexuel. C'est ce que sous-entendait Freud, qui affirmait que bien des névroses trouvaient leur origine dans les difficultés ressenties par les individus à satisfaire leurs besoins sexuels alors qu'ils étaient dans le même temps tourmentés par la crainte d'une grossesse indésirable. Et de fait, les civilisés du meilleur des mondes sont à même de jouir pleinement car ils se sont libérés du joug reproducteur. Ils fabriquent des enfants en dehors des corps maternels après avoir prélevé ovocytes et spermatozoïdes sur les individus venant d'atteindre la puberté. L'apogée de la civilisation correspond dans ce récit d'anticipation et selon les vœux exprimés par Freud auxquels Huxley fait référence à l'avènement d'une jouissance sexuelle sans entrave impliquant l'éradication de l'enfantement naturel. Il s'ensuit que les adultes peuvent s'adonner à volonté aux activités érotiques et ce d'autant plus qu'on les y enjoint à la condition impérative qu'ils recourent aux préservatifs et, en cas de raté des préservatifs, à l'avortement. La civilisation, nous répète Huxley à plusieurs reprises, c'est la stérilisation, c'est-à-dire l'éradication de la maternité. De ce point de vue, l'érotisme apparaît comme l'apanage d'une humanité civilisée, se distinguant d'autres sociétés posées, elles, comme archaïques, plus ensauvagées, c'est-à-dire pas tout à fait dégagées de l'animalité, c'est-à-dire pas tout à fait dégagé de la nature, comme le suggère la prose du journaliste de Télérama. L'érotisme inscrit pleinement dans la culture, tandis que la reproduction naturelle rabaisse au niveau de la nature et par là de l'animalité. Pour les séparer, érotisme et reproduction naturelle, et ainsi atteindre le statut plein et entier de civilisé, il faut recourir à une technologie sophistiquée à laquelle n'ont pas accès les peuples dits parfois premier. Ce récit d'anticipation reflète admirablement l'évolution des représentations et des pratiques touchant à la reproduction dans les sociétés occidentales où les activités érotiques et la procréation tendent effectivement à être appréhendées comme des domaines indépendants l'un de l'autre. L'accession à une sexualité épanouie requiert que les individus soient protégés des risques reproducteurs. On met donc à la portée des individus dès qu'ils atteignent la puberté, des moyens contraceptifs ou abortifs efficients visant à prévenir la grossesse. La fécondité des femmes a quasiment fini par être assimilée à une maladie qu'elles doivent traiter de la puberté à la ménopause, et même au-delà. Et lorsqu'elles souhaitent enfanter, elles doivent s'adresser à des spécialistes, gynécologues et obstétriciens, qui ont la charge plus ou moins exclusive de la grossesse. Car la procréation est devenue un domaine réservé, celui du médicalement assisté, pas seulement pour justement des procréations médicalement assistées, mais toute grossesse est médicalement assistée avec déclaration obligatoire. Nous avons vu que Huxley associait dès 1932 l'émancipation sexuelle au contrôle sur la fécondité. Et en effet, la liberté sexuelle et l'égalité des sexes sont redevables au développement des moyens de contrôle sur la fécondité. L'égalité impose la symétrisation des rôles sexuels, masculins et féminins, paternels et maternels, de ce point de vue. Seul obstacle, la gestation, la nécessité d'en passer par un corps maternel pour naître et pour faire naître. Une solution envisageable, faire en sorte que les humains ne soient plus enfantés à l'intérieur d'un corps de femme, mais dans un environnement asexué, c'est-à-dire l'ectogenèse, c'est-à-dire l'utérus artificiel. Et là, je vous renvoie au livre sur le sujet de Henri Atlan. De fait, nous sommes bien aujourd'hui dans la projection de l'avènement du meilleur des mondes d'Huxley, comme l'illustre la prose de juillet 2004 du professeur d'immunologie Jean-Claude Veil dans la très sérieuse revue Géopolitique. Je le cite. « Je suis convaincu que très vite, la reproduction ne se fera plus qu'en laboratoire in vitro. » On n'est pas dans Huxley, hein, on est dans la revue Géopolitique. « Le mode de reproduction à l'ancienne ne sera plus qu'exceptionnel. C'est inévitable, étant donné la façon dont la société évolue. Les femmes font des carrières, passent des diplômes et à 40 ans veulent un enfant qu'elles n'ont pas eu le temps de faire avant. La solution, c'est de prélever à 18 ans les ovocytes et les spermatozoïdes en prévision de ce désir futur et de les mettre en attente. On aura ainsi des cellules germinales fraîches que l'on pourra utiliser à volonté pour une fécondation in vitro. Pour devenir l'égale de l'homme, la femme devrait donc sacrifier ce qui était son exclusive, la grossesse, voire l'enfant. Nous ne sommes plus ici au niveau de la seule utopie. Pour accéder à un statut social équivalent à celui des hommes, bien des femmes choisissent de barrer leur fonction maternelle, tandis que dans l'ancienne Allemagne de l'Est, à la suite de la vague de chômage qui a suivi la réunification des deux Allemagnes, des centaines de femmes se sont fait stériliser pour prouver à un éventuel employeur qu'elles n'auraient plus de nouvelles contraintes familiales. Ces faits bruts entrent en résonance avec le commentaire de Bettina Reims sur l'une des photos de son exposition qu'elle avait faite il y a quelques années, qui avait été présentée à la Maison européenne de la photographie, INRI. Donc c'était des illustrations de la Bible. Et il y avait un triptyque où vous aviez une Madone à l'enfant au milieu, et d'un côté vous aviez une femme nue, âgée, avec des cheveux longs, maigris, et donc au corps flétri, et de l'autre côté une femme brune aux très beaux cheveux, au très beau corps extrêmement galbé et voluptueux. Voilà. Et donc l'une était Ève et l'autre était Marie, nous disait Bettina Reims. Et voilà son commentaire de ce triptyque. Marie est la nouvelle Ève qui sauve les femmes et le monde en sacrifiant son enfant. Alors vous y penserez plus tard, mais je pense pas que c'était ce que les chrétiens avaient en tête, mais c'est intéressant quand même. Donc comment comprendre cette interprétation biblique de Bettina Reims, sinon en constatant que la disjonction entre sexe et procréation, combinée au sacrifice de l'enfant, libère les descendantes d'Ève, la mère originaire, de l'héritage abject qu'elle leur a légué, une forme archaïque de maternité. Ève est coupable d'être une mère à l'ancienne, Marie, la moderne, s'y substitue pour sauver les femmes et se faisant racheter l'humanité tout entière en assumant une reproduction asexuée, signe précurseur de l'avènement d'un monde meilleur, plus évolué, plus civilisé. À Hollywood, la figure de la rédemption est particulièrement bien incarnée par l'héroïne de la saga Alien, le lieutenant Ripley. Elle doit, elle aussi, pour sauver l'humanité menacée par une procréation aberrante, sacrifier sa progéniture. Et comme par hasard, dans ce monde du futur où règne la mixité et quand même une relative égalisation des sexes, seule une femme est à même de combattre cette survivance aberrante qu'est la grossesse. Cette nouvelle forme de mythologie fait donc ressurgir de manière dramatique ce qui tend à être occulté dans nos sociétés égalitaires. Une asymétrie en faveur des femmes au plan de la reproduction qui permet de leur attribuer des pouvoirs particuliers et exclusifs. L'utérus y est perçu et présenté comme une boîte de Pandore d'où peuvent s'échapper 1000 démons. En apportant la possibilité de dissocier sexualité et procréation, les nouveaux modes de procréation, fécondation in vitro, bébé éprouvette, clonage, ont érigé le champ obstétrical en domaine séparé de la relation entre les sexes et, ce faisant, ils ne font que consacrer ce qui spécifie la fonction reproductrice féminine, à savoir la phase gestationnelle. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de films où on voit beaucoup de grossesses. Et de fait, la grossesse, une fois avoir été séparée du reste, peut se manifester dans l'imaginaire culturel sous la forme d'une entité autonome, scindée de son support sexuel habituel, la femme. Elle prend l'aspect d'une bête, dont le masque monstrueux recouvre les pouvoirs féminins occultes et mortifères que des apprentis sorciers tenteraient de s'accaparer. On est ainsi amené à assister au combat entre la femme et sa fonction procréatrice, moyen d'associer ce qui a été préalablement dissocié. Je suggérerais ici que l'épopée d'Alien est également l'allégorie d'une initiation féminine autorisant les femmes à juguler elles-mêmes leur puissance maternelle. Il faut savoir qu'à Hollywood, les scénaristes se fondent souvent sur une trame initiatique, ils lisent des anthropologues, Joseph Crimbo, pour faire évoluer le récit du personnage principal. Au cours des initiations masculines et féminines qui ont cours dans des sociétés dites traditionnelles bien réelles, les jeunes gens sont séparés de leur milieu habituel et envoyés hors du village, en brousse ou en forêt, c'est-à-dire dans une zone réputée non domestiquée, sauvage, où ils vivent reclus, et c'est dans cet espace hors société qu'ils vont subir bon nombre d'épreuves censées les transformer. La dernière étape de l'initiation va consister à les réintroduire dans la société ordinaire avec un statut nouveau d'homme ou de femme adulte habilité à se marier et à avoir des enfants. Alors, on va considérer sous cet angle le scénario d'Alien. Une jeune femme est extraite de son milieu habituel, la Terre, pour être immergée dans un environnement sauvage non domestiqué, l'espace intergalactique. Elle doit y affronter bon nombre d'épreuves qui la confrontent à la part de la féminité à laquelle elle n'a pas encore accédé. La maternité, qui la terrifie et qui revêt pour elle la forme hideuse d'un monstre. Elle est toutefois conduite à l'assumer progressivement. Au cours des 4 épisodes, elle est successivement mère nourricière d'un chaton, mère adoptive d'une fillette, génitrice d'une femelle puis d'un mâle non humain. Elle finira ainsi par incorporer la part animale qui la consacre femme. Elle devra pour cela subir l'épreuve ultime, la mort, pour renaître de ses cendres, totalement métamorphosée, encore plus forte et féminine qu'avant. Alors ça se discute, moi je considère que c'est une féminité à laquelle je m'identifie, mais d'autres me disent non, pas du tout, elle est masculinisée. Elle est alors à même de terrasser définitivement le dragon maternel, ce qui l'autorise à réintégrer la société humaine en revenant sur Terre. Les initiations masculines et féminines qui ont cours dans d'autres contextes culturels, donc les biens réels, légitime l'accession des individus à un rôle procréateur qui les fait passer du statut d'enfant à celui d'adulte habilité à devenir parent. L'initiation de l'héroïne d'Alien, en revanche, la conduit à forclore son rôle maternel. Elle l'incorpore, certes, mais pour mieux le faire taire en tuant la progéniture qu'elle a elle-même générée. On relèvera que le symbolisme de la mort et de la renaissance de l'héroïne, si dramatiquement mis en scène au cours des 2 derniers épisodes d'Alien et dans ses autres contextes culturels, donc la renaissance, la mort et la renaissance, donc dans les autres contextes culturels plus traditionnels, le propre de l'initiation masculine. Grâce à cette épreuve, les hommes sont transformés en garants de la fertilité féminine. On voit donc que si l'enjeu des initiations traditionnelles et utopiques concerne bien le devenir de la fonction reproductrice, le traitement qu'elles en font va dans des sens inverses. Dans un cas, il revient à l'homme de favoriser l'expression de la maternité chez les femmes. Dans l'autre, c'est à la femme de la folklore elle-même. Cette inversion symbolique reflète à merveille la transformation des relations entre les sexes qui est en train de s'opérer dans les sociétés occidentales modernes. Il ne s'agira pas tant pour la femme postmoderne personnifiée par la star de cinéma Sigourney Weaver d'assumer une fonction maternelle imposée par les hommes que de participer en tant que commandante en chef à sa maîtrise. Les femmes sont présentées comme les héros des temps futurs qui seront à même de dompter la reproduction. Au cours des 4 volets de la saga Alien, l'étranger, Alien en anglais, donc cet étranger que doit combattre l'héroïne, a les traits d'un prédateur exceptionnel, une sorte d'insecte géant, mi-fourmi, mi-araignée, qui transforme ses proies humaines en cocons ou déverse le contenu de ses œufs. Le seul objectif de ce monstre est de se reproduire. On ne le voit jamais ni manger, ni copuler, ni faire pipi, ni faire caca. Il ne fait que se reproduire. La bête ne dévore pas ses victimes, elle s'empare de leur corps pour engendrer. Elle extermine de l'intérieur en pénétrant les organismes hôtes où elle se développe à la vitesse de l'éclair. L'arme suprême d'Alien est la grossesse. Le contenu de ses œufs est implanté dans la poitrine de ses victimes par l'intermédiaire d'un organe projectile, je vais vous faire une démonstration, dont une des extrémités s'enfonce dans l'œsophage. Au terme d'une gestation thoracique relativement rapide, l'accouchement du nouveau-né provoque l'explosion de l'autre porteur. Voilà. Ceci dit, est-ce que quelqu'un veut être imprégné ce soir? Sinon... Mais de ce côté-là, vous avez un sexe féminin, merci, sans clitoris. Et donc cette chose va sortir, vous allez le voir dans mon extrait, d'un œuf. Donc c'est un œuf gigantesque qui est comme un utérus extériorisé, un macro-utérus externalisé, donc l'œuf. Et de cet œuf va sortir cette chose qui va aller sur la personne. Et donc à chaque fois, si on essaye de le couper, ça entraîne, ça étrangle la personne qui est inséminée. Et de là sort un truc, alors comme tout ce qui est long et soi-disant phallique, donc voilà, pour en fait inséminer dans la poitrine. Voilà. Donc ceux qui voudront aussi essayer. Cette chose répugnante, donc je soulignais l'absence de clitoris parce qu'il s'agit bien de reproduction, ça c'est très clair. Cette chose répugnante, qui a d'autres avatars à Hollywood, n'est autre que le masque hideux qui sert à désigner dans l'Occident moderne l'aspect inhumain, bestial, invasif, en un mot parasitaire, de la reproduction. Je rappellerai que l'un des enjeux majeurs de la recherche médicale contemporaine est de rendre compte du mystère du développement du bébé dans le corps maternel. Le bébé est associé d'un point de vue immunitaire à un corps étranger, un corps alien, au sens propre. Je ne vous raconte pas des blagues, c'est le côté médecin qui vous parle. Et on tend à rapprocher ce phénomène du cancer. Quand je faisais mes études de médecine, on nous expliquait que le jour, donc on ne sait toujours pas comment ça se fait que la mère tolère cet étranger. On sait que c'est lié au placenta, parce qu'une fois que le placenta est éjecté et qu'on essaye de greffer du tissu de l'enfant à sa mère, il est rejeté, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Et ce qu'on nous disait, c'était que le jour où on saurait, on aurait enfin la révélation de ce mystère, eh bien, on pourrait traiter le cancer, puisque le processus est le même, c'est-à-dire, effectivement, vous avez le développement à l'intérieur de votre corps de cellules qui sont étrangères. Donc, bon, et depuis, avec la visualisation à la fois des tumeurs à l'intérieur du corps et, évidemment, du développement du fœtus, et le développement du fœtus, enfin, de l'embryon, notamment dans les premières semaines et les premiers mois, est extrêmement rapide. Donc évoque la prolifération tumorale. Et de fait, dans bien des films, le bébé est présenté comme un parasite prenant possession du corps maternel. Dans cette mythologie contemporaine, les hommes qui s'emparent de la créature pour accaparer ses pouvoirs reproducteurs sont du côté des méchants. La crainte de la pullulation d'une espèce étrangère, susceptible d'annihiler en la parasitant une humanité civilisée, c'est-à-dire supposée ayant atteint les cimes du progrès technologique et de la sophistication culturelle, renvoie à la peur des Occidentaux hypofertiles d'être débordés par une surpopulation présentée comme potentiellement annihilante, car elle épuiserait les ressources terrestres. Alors, je vous rappellerai quand même que, à l'heure actuelle, et ça diminue, les Occidentaux représentent entre 14 et 18% de la population mondiale, et qu'ils utilisent à peu près 90% des ressources et sont responsables dans les mêmes proportions du taux de pollution. Donc il y a un petit problème de représentation, mais ça c'est vrai de toute idéologie. Et donc néanmoins, dans la perspective du monde évolué des sociétés industrialisées, le degré d'évolution culturelle est estimé inversement proportionnel au taux de fécondité et la démographie galopante, la fertilité incontrôlée des femmes des pays en voie de développement, c'est-à-dire moins évoluées que les autres, est présentée comme un danger pour l'ensemble de l'humanité. À la différence de ce qui a généralement cours en milieu traditionnel, le malheur, voire la maladie, tend en Occident à être référé moins à la stérilité qu'à un excès de fertilité. Vous regarderez dans vos dictionnaires ce soir, vous verrez que à l'alpinisme, c'est une maladie de la trop grande fertilité. Alors ça, nous les ethnologues, on n'avait pas rencontré ça, mais chez nous, donc il y a une maladie de la trop grande fertilité qui concerne, c'est marqué dans le petit Robert, soit les individus, soit les couples, les peuples. Donc ça, c'est intéressant parce qu'une maladie qui touche un peuple, c'est quand même un rapport entre peuples qui est intéressant à considérer. Ce thème est loin d'être moderne, le fait d'avoir peur de la fertilité des pauvres. Il faut se souvenir du célèbre pamphlet de celui qui avait fait les voyages de Gulliver, Jonathan Swift, qui a écrit en 1729 une modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres de devenir un fardeau pour leurs parents. Et là, l'auteur suggère, avec un humour froid et ravageur, de résoudre le misère de la surpopulation par l'anthropophagie. C'est-à-dire les pauvres emmèneraient leurs bébés qu'ils ont trop en abondance au marché et les riches pourraient en faire un mets prisé. Je ne ferai pas de rapprochement avec les adoptions à l'étranger. On doit bien constater que la maîtrise de la reproduction des pauvres, des sous-évolués, est devenue l'un des objectifs majeurs du monde civilisé pour juguler les risques supposés dramatiques d'un surpeuplement terrien auquel une reproduction naturelle est censée exposer l'humanité. Donc, que ce soit la conférence du Caire, la conférence de Pékin, sous couvert d'acquisition des droits par les femmes, il y a une injonction faite par les pays occidentaux de diminuer le taux de fertilité. Quelle que soit la validité, c'est représenté par les gens qui sont localement concernés, quand même une prise de pouvoir sur leur corps qui est particulière. Dans le même temps, les sociétés occidentales qui ont les plus grandes difficultés à assurer le renouvellement des générations en raison de leur faible taux de fécondité ont besoin des migrants, ces étrangers, ces aliens considérés comme moins évolués, plus proches de l'animalité, d'où la crainte conjointe qu'ils ne nous animalisent, le thème d'autres types de films de science-fiction. Les films de science-fiction rendent explicite cette idéologie. Les monstres procréateurs qu'ils mettent en scène sont également les figures de l'autre, de l'étranger, c'est-à-dire des migrants dont les hordes venues du sud et de l'est risquent de nous submerger. Entre aliens et la crainte des jeunes de banlieue perçus comme des potentiels prédateurs, il n'y a peut-être qu'un pas de fourmis géante. Si j'avais eu plus de temps, je vous aurais montré des extraits du film Starship Troopers, particulièrement explicite à cet égard. Parasitisme, prolifération, supermaternité caractérisent l'insecte. On comprendra donc que la figure de l'insecte soit privilégiée pour susciter l'horreur liée à la reproduction. Dans l'univers habituel, la différence de taille entre insectes et humains joue fort heureusement plutôt en faveur des humains. Mais pour représenter l'aspect terrifiant de la pullulation animale, les cinéastes mettent en scène des insectes géants au développement accéléré. Dans cette perspective du rôle de l'insecte pour représenter nos craintes par rapport à la reproduction, un autre aspect du mode de développement des insectes va jouer en leur faveur sur la scène hollywoodienne. L'état de chrysalide par lequel ils passent pourra devenir en tant qu'être reproducteur et adulte, et ainsi atteindre leur forme définitive. Les scénaristes vont signifier la transformation de l'enfant stérile en adulte procréateur au travers de son passage par un état de chrysalide où est censée s'opérer la métamorphose. Un exemple remarquable nous en est fourni par le film « La mutante ». De l'ADN extraterrestre a atterri dans un laboratoire et a donné naissance en quelques mois à une préadolescente aux traits ingrats et à l'allure un peu enrobée, justement des préadolescents. Elle a également des comportements qui font souvent leur apparition à cette époque de la vie, accès de boulimie, fugue, contemplation dans le miroir avec la nette impression d'une transformation horrifique. Et de fait, des tentacules sortent vraiment de son visage, que vous allez voir, et de ses membres, la métamorphosant en chrysalide d'où va s'échapper une femme svelte, au corps parfait et au visage affiné d'une grande beauté. L'unique objectif de cette bombe sexuelle et néanmoins de trouver des partenaires sexuels pour engendrer, ce qui est très très vilain. La petite fille, jusqu'alors inoffensive, se transforme, lorsqu'elle accède à sa puissance reproductrice, en une véritable prédatrice sexuelle. Après avoir pourchassé ses partenaires, elle les tue dès qu'ils ont rempli leur office, telle la mante religieuse et la veuve noire. Une fois inséminée, elle se transforme en animal, prêt à tout pour sauver son petit. Dans La Mutante 2, l'astronaute infecté par un ADN martien ne peut s'empêcher de faire l'amour à tout va. Ses partenaires sont immédiatement inséminés, durant le coït même, et quelques moments plus tard, l'explosion de leur ventre enceint les tue, tandis qu'un petit garçon se tient à leur côté. L'astronaute met à l'abri la ribambelle de fils qui lui échoit, et de leur nez sortent des filaments qui les transforment en chrysalides, d'où, laissons présager, sortiront de futurs prédateurs procréateurs qui iront inséminer les humains actuels, auxquels, à terme, ils se substitueront. Au moment où l'alien de La Mutante 1 et l'astronaute infecté de La Mutante 2 font l'amour, des excroissances sortent de leur corps, leur conférant une allure hybride, mi-humaine, mi-animale. Et lorsque la mutante du premier épisode est enceinte et accouche, elle se transforme entièrement en animal. Il en va de même des deux hybrides de La Mutante 2 lorsqu'ils copulent ensemble pour assurer la reproduction de l'espace extraterrestre qui les possède. La conjonction sexe et reproduction est donc visuellement associée à la régression animale ainsi qu'à la mort. Les partenaires ayant servi à l'insémination de l'ADN extraterrestre sont destinés à mourir. Ils ne sont que les instruments d'une sexualité à visée exclusivement reproductrice. donc c'est montré comme quelque chose de négatif. Alors, les excroissances, vous allez le voir, ça va être à la fin, éventuellement je vous le rappellerai, on en parlera dans la discussion s'il y en a une, c'est lié au fait que dans toutes les sociétés, y compris la nôtre, il y a un vieux fond qui veut, qui voulait que ce qu'on appelle le sperme, qui concerne pas seulement ce qu'émettent les hommes, mais aussi les femmes, jusqu'à 19e siècle, on parle de sperme féminin et masculin, était sécrété dans la colonne vertébrale. La moelle de la colonne vertébrale était liée à la semence. Simplement, la semence masculine était plus forte, et du coup, il avait une queue qui prolongeait donc la colonne vertébrale, c'est-à-dire que le pénis était vu comme le prolongement de la colonne vertébrale masculine, et de fait, chez certains canidés, aussi chez l'âne, il y a un os pénien, donc qui allait corroborer cette idée. Et le fait est que, quand vous savez qu'on dit que quelqu'un qui est cocu a des cornes, parce qu'il y a cette idée que, étant donné qu'il ne peut pas émettre son sperme dans le corps de sa femme parce que celle-ci est déjà occupée avec quelqu'un d'autre, il y a son sperme reflue pour lui donner des cornes. Donc on a effectivement le fait, ce qui est cornu, vous allez voir que là c'est à la fois des messieurs et des dames qui ont des cornes qui leur poussent, ça signifie symboliquement, ça nous renvoie au fait qu'ils sont très prolifiques. Alors, je vous propose qu'on regarde des extraits de films, de Alien et puis ensuite de La Mutante, enfin 1 et 2. Et il faut que je vous prévienne de scènes gore et sexe qui pourraient peut-être vous choquer. Voilà. Alors, je dis toujours ça, mais c'est vrai. Surtout, regardez les scènes, parce que quand on a peur et qu'on se bouche les yeux et qu'on entend des choses, on imagine des choses beaucoup plus terribles. On est tous ensemble. Je vous répéterai que quand vous allez avoir des scènes horrifiques, ça n'est pas vrai, c'est faux, c'est de la mise en scène, c'est de la sauce tomate ou des choses, des colorants qu'on met. Donc le but, c'est pas de vous faire peur, le but, c'est que vous essayez de regarder ces images. Enfin bon, vous êtes peut-être un public averti, donc il n'y a pas de souci. Mais donc, c'est, encore une fois, mon but, c'est pas de vous faire peur. Mais je dois me rendre compte que ça peut vous faire peur, parce que moi, depuis le temps que je les regarde... Voilà. Donc, on va regarder. Merci. Voilà. Alien le 8e. Alors, attendez, juste un instant. Je vais vous dire. Donc, je vous dis grosso modo ce que c'est. C'est des gens qui sont employés par une compagnie commerciale et qui vont chercher des métaux dans l'espace intergalactique. Et ils sont en train de revenir sur Terre, donc en hypersommeil, parce que vous savez que quand on voyage, ça met beaucoup, beaucoup de temps. Donc, pour pas qu'ils vieillissent, ils sont en hypersommeil dans le vaisseau. Et à ce moment-là, il y a le vaisseau, il y a un SOS qui est émis et qui demande à ce qu'on aille vérifier sur une planète. Il y a un SOS. Donc, un des astronautes y va. Et il découvre dans une grotte qui a un climat tropical très chaud, des milliers d'œufs gigantesques, et il en regarde un, et pendant qu'il en regarde un, il y a cette chose qui va sortir et qui va l'imprégner. Donc on le ramène sur le vaisseau spatial, et on se demande ce qu'on peut faire. Il y a un officier scientifique dont on ne se doute pas qu'en fait c'est un androïde méchant. Il y a des androïdes gentils, mais celui-là il est méchant, parce qu'en fait la compagnie commerciale lui a demandé de ramener, fût-ce au prix du sacrifice de l'équipage tout entier, la chose. Voilà. Qu'ils vont pouvoir vendre éventuellement à des militaires comme arme particulière. Donc, de fait, la bête va tuer tout le monde, sauf l'héroïne, le lieutenant Ripley, donc une femme, qui est Sigourney Weaver, et son chat ne va pas être tué non plus. Donc c'est son chaton, à l'époque il y a un chaton, après on va voir qu'il a vieilli au cours du deuxième épisode. Donc je vous propose qu'on regarde cet extrait. Donc on peut y aller là. On peut mettre le son, hein, c'est pas... Donc là, voilà, il est en train de découvrir les œufs. Vous voyez ou je vous empêche de voir là ?
C'est bon, vous êtes... Il semble complètement fermé.
Donc c'est encore une fois, c'est intéressant dans une société qui valorise beaucoup le sexe. On a énormément de représentations de la reproduction. Alors, de l'œuf va éclore la chose, donc ça risque de vous faire peur parce qu'ils vont faire exprès de faire...
Attendez, ça bouge.
Donc vous imaginez bien que là, vous pouvez voir...
Une vie organique.
On se demande ce que pourrait être d'autre une vie, mais bon. Donc, vous pouvez voir là ce qu'on ne peut pas voir normalement dans un utérus qui est à l'intérieur du corps d'une femme. Hein. Donc, Donc voilà, ça va être le moment où ça va sauter. Donc regardez bien. Voilà. Alors ça, c'est le méchant officier scientifique, l'androïde. Et donc le monsieur est enceint maintenant. Donc là, il s'est réveillé et il a eu très très faim comme les femmes enceintes. Et le pauvre, là, sa cage thoracique va exploser. Donc c'est de la mise en scène. Il va y avoir du sang. Ça permet aussi toujours de montrer comment la reproduction naturelle au sein du corps même est dégoûtante. Hein. Elle est pleine de sang, plein de choses qui ne sont pas sympas et c'est surtout mortel. C'est une scène obstétricale particulièrement peu ragoûtante. Ça ne donne pas franchement envie. Vous voyez quand même le temps qui est mis pour nous représenter une reproduction. C'est bien de reproduction. Voilà. Une petite reine alien qui est née avec toutes ses petites dents. Alors elle va grandir très très vite. Donc hein, cette espèce alien n'est faite que de femelles jusqu'au quatrième épisode où grâce à Ripley, elle va pouvoir avoir enfin, grâce à ça, dans son hybridation avec une humaine, accéder à la possibilité de faire des mâles en ayant acquis un système reproducteur complet, puisque ce sont donc des espèces uniquement femelles. Alors, dans Alien 2, donc là, 57 ans plus tard, donc Ripley est récupéré dans sa capsule de sauvetage. Et entre-temps, les terriens ont envoyé sur la planète des colons s'installer. Et les colons ne répondent plus au téléphone, si j'ose dire. Enfin, au niveau, il n'y a plus de communication avec eux. Donc, on se demande bien ce qui s'est passé. Et on dit à Ripley, mais au fait, comment ça se fait que tu es la seule survivante, etc. Alors, on laissera tomber ton cas si tu accompagnes les G-Guys pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, elle n'est pas tout à fait prête à y retourner. Et elle y retourne et donc, elle est face à des G-Guys qui sont hommes et femmes, super, hyper virils, très sexe, machin, moi, machin, truc, très machiste et tout ça. Donc, elle, la pauvre, qui n'a pas envie d'y aller. Et puis, finalement, ils vont tous mourir, sauf elle. Alors, sur la planète, ils vont découvrir que, effectivement, tous les colons ont été inséminés, transformés en chrysaline. Et seule une petite fille, prépubère, survit. Newt, salamandre, ça veut dire en anglais. Et donc, Newt va dire à Sigourney Weaver, « Ah, mais ma maman me disait toujours que les monstres n'existent pas, mais ils existent. La preuve, c'est que je les ai vus. » Et qu'ils ont fait beaucoup de choses. Elle demande à Sigourney si elle peut l'appeler maman. Donc c'est le côté de la fille adoptive. Et toutes les deux, le nouvel officier scientifique, qui cette fois est un vrai humain, et plus un androïde, parce que l'androïde, on va le revoir, mais ce n'est pas le même androïde. L'androïde est cette fois gentil, il va être coupé en deux par la reine alien. Mais toujours est-il que l'officier scientifique veut qu'elle soit imprégnée, donc Sigourney Weaver et la petite fille, par la bête, de façon à passer aux douanes, ni vue ni connue, la chose pour la vendre toujours aux militaires et tout ça. Donc, il va les enfermer l'une et l'autre. Et puis, à un moment donné, donc, la petite fille va être kidnappée par un des guerriers de la reine alien, qui a sa pouponnière, qui est, vous allez voir, c'est très plein d'œufs et de machins. Et donc là, vous allez voir que la reine alien, elle a beau, elle est justement à ce stade de l'épopée alien, elle est une ovipare, donc c'est très clean par rapport aux pauvres vivipares qui doivent avoir ces choses-là dégoûtantes à l'intérieur de leur corps. Donc les ovipares, elle a ce qu'on appelle une ootèque, c'est un organe à partir duquel elle peut pondre ses œufs, donc c'est très clean. Quand elle veut se battre, elle dépose son ootèque et elle part se battre. Et on va assister à un combat, parce qu'elle était prête donc à faire imprégner par ses œufs la petite fille, donc une fille prépubère, prête à accéder à sa fonction reproductrice. Sigourney Weaver vient la sauver et on va assister à un combat entre la bête, la gigantesque reine alien, et notre Sigourney Weaver. Donc, pro-sexe, pro-reproduction. Donc, on va regarder ça. On peut y aller. Voilà, alors là, ils sont sur la planète maudite. Vous avez ces choses, ces organes intermédiaires qui inséminent. Là, vous avez donc des traces de gens qui ont été transformés en chrysalide. Et en particulier, ils vont trouver une femme. Donc là, vous voyez, c'est les restes de cette chose-là. Donc voilà, une femme qui a été inséminée, transformée en chrysalide, et à laquelle Sigourney Weaver va s'identifier. Et la femme préfère, demande à être tuée plutôt que d'accoucher d'un monstre. Et donc, il y a toute cette identification, donc on est bien dans l'initiation de Ripley, à cette part de la féminité à laquelle elle doit céder. Donc là, elles ont été enfermées, la petite fille et elle, par l'officier scientifique. Là, c'est pour montrer le côté prolifique des aliens. Et puis, donc, il y a la petite fille qui a été abductée, qui est face à un œuf qui est tout prêt à éclore pour l'inséminer. Alors, c'est important parce que dans Alien la Résurrection, on entendra cette fois-ci Sigourney Weaver dire être celle qui dit « Ma maman me disait toujours que les monstres n'existaient pas, mais ils existent. » Donc, il y a bien cette identification au fait d'accéder à une fonction reproductrice. Donc, Sigourney Weaver sauve la petite fille et se retrouve en face de la grande dame, la reine alien, et elle est très méchante parce qu'elle va, elle va mettre le feu à la pouponnière. Donc, vous voyez le haut-tech. Toujours l'image des insectes, hein, ce sont les insectes qui ont des haut-tech. Voilà, c'est le haut-tech, ça. Vous allez voir, ça, regardez bien, parce que ça, c'est très clean, alors qu'on va voir quand la pauvre reine alien va être amenée à accoucher naturellement comme une humaine, c'est beaucoup moins rigolo. Voilà. Alors, vous avez l'image alien, en fait, Geiger qui a fait la maquette, c'est une, ce qu'on appelle une mante empusée. Donc, ce n'est pas une mante religieuse, c'est une autre forme de mante qui a un diadème comme ça, et ses six pattes dont les deux premières paires rapteuses pour attraper ses proies. Et un côté aussi fourmi, le côté luisant et noir. Et un côté également araignée dans la mesure où elle tisse des choses pour ses proies. Enfin bref, c'est tout un condensé de différentes figures d'insectes. Donc Sigourney Weaver met le feu à ses œufs, ce qui va la rendre très très en colère. Et là, c'est le. Vous inquiétez pas, c'est pas un vrai monsieur, il va se faire couper en deux. C'est l'androïde qui a été ressuscité, mais sous une forme gentille. Et là, vous avez Sigourney Weaver avec. Donc là, c'est là où vous assistez au combat entre Sigourney Weaver et la bête par rapport au fait d'inséminer la petite.
Newt, pars vite.
Je sais pas pourquoi ça m'a jamais fait ça. Rien ne se passe. Donc, normalement, elle dit, donc je ne sais pas ce qui se passe avec c'est une compatibilité de machine, toujours est-il qu'elle dit à ce moment-là, non, pas elle, moi, et donc on assiste au combat des deux femmes. Voilà. Alors, dans Alien 3, il y avait deux, trois autres personnes qui étaient sauvées avec Sigourney Weaver, mais quand elle se retrouve, elle tombe dans une planète pénitentiaire, qui était un endroit, une fonderie où donc des prisonniers étaient mis, tous les autres sont morts et elle est encore une fois la seule survivante. Seulement, elle a été non seulement imprégnée elle-même par un alien, mais en plus elle est suivie par un alien. Donc elle arrive dans cette planète intergalactique où tous les prisonniers sont des hommes, ce sont des meurtriers ou des violeurs de petites filles ou de femmes et qui ont purgé leur peine. Mais ils sont tous des XYY, donc on insiste bien sur le côté masculin. Ils ont décidé de rester sur cette planète et de fonder une communauté religieuse d'où les femmes sont bannies parce que les femmes portent malheur. Donc c'est vraiment comme autrefois chez les marins, enfin la crainte de la femme. Et ils ont bien raison parce que si Sigourney Weaver tombe avec eux et ne vont pas y couper, la bête va commencer à faire ses méfaits et va commencer à les tuer. Alors, il y a cette insistance sur le fait que là encore, c'est elle seule qui va pouvoir faire quelque chose. Et donc, la compagnie commerciale qui apprend qu'elle est enceinte veut la récupérer, elle, comme l'écrin de l'arme qu'il pourrait vendre aux militaires, toujours la même chose. Et elle demande aux prisonniers d'emmener la bête, de faire en sorte de faire une battue de façon à ce que la bête tombe dans la fonderie qu'on a remise en marche et que la bête tombe dans le métal en fusion. Une fois la bête est tombée, elle, elle sait qu'elle en a une à l'intérieur d'elle-même, donc elle décide de se sacrifier en se jetant dans le chaudron en fusion. Et à ce moment-là, elle va condenser à la fois une figure, bon, c'est Cameron qui a fait le 3, elle va condenser une figure christique, elle se jette dans le chaudron, sauf que le Christ, il part en croix en haut, elle, elle va se jeter en bas, mais elle va avoir les bras en croix, et au moment où elle fait ça, la petite reine alien qu'elle avait en elle éclot, et à ce moment-là, elle va mettre ses bras comme ça, donc elle combine la figure du Christ et de la Madone. On est vraiment dans des représentations... Voilà. Donc, je vous propose qu'on regarde. Donc là, elle voit qu'elle est enceinte.
Oh, merde !
Je me demande s'il ne faudrait pas essayer de changer de disque ou si... Non.
Oh merde! Sale merde! Il s'amène! Il s'amène, Dylan! Le voilà! Et le voilà, Dylan! Fermez ce putain de ça!
Donc le sang dans le Sigourney Weaver dans le chaudron pour pouvoir la cloner, et donc entre temps, comme elle est, donc ils ont fait plusieurs clones de plus ou moins réussi, et oh pardon et donc le fait d'avoir eu dans son corps la reine alien a modifié son génome de la même façon que ça a modifié le génome de l'alien. Elle, Sigourney Weaver, elle a acquis une mémoire absolument extraordinaire, une force extraordinaire. Elle a maintenant du sang acide qui lui permet, de, si elle se saigne, de pouvoir traverser la fonte ou ce que vous voulez. Enfin bref, tout. Et en même temps, elle est donc voilà, elle a des capacités surhumaines. Tandis que la pauvre bête, elle, ce dont elle a hérité, c'est de ce système reproducteur complet qui va lui permettre d'accoucher du premier mâle de son espèce par son corps. Et donc, la bête a été recréée, elle a pondu des œufs, il faut lui donner des gens en pâture. Donc, les militaires payent des mercenaires qui sont, eux, pas du tout reproduction, mais qui sont très, très sexe, qui sont très cool, ados, musique, métal, rock, machin, chose, alcool et tout ça. Alors, c'est très particulier parce que, justement, on a le côté militaire ou biotechnologiste qui sont tous les deux assez rigides. Et c'est ça, donc on a... Et ces mercenaires emmènent avec eux une femme dont ils ne savent pas, Cole, qui est donc Winona Ryder, qui est une robot de deuxième génération. C'est-à-dire que non seulement elle est une robot, mais en plus elle a été produite par des robots eux-mêmes afin de sauver l'humanité. C'est-à-dire qu'elle est envoyée pour tuer Sigourney Weaver avant que celle-ci ne soit accouchée de force par les militaires, mais manque de bol, elle arrive trop tard. Alors j'ai oublié de vous dire, mais on va le voir là. Sigourney Weaver, la façon dont on va l'accoucher, c'est qu'on va lui faire une césarienne thoracique, forcément, parce que le bébé, il se... Et donc là, vous allez voir, à un moment, je vais vous le rappeler, vous allez voir un moment, après qu'elle ait été donc accouchée, les militaires, ils ont bien tué la mère parce qu'à chaque fois, elle fait problème. Elle avait toujours été plutôt pas très gentille avec eux en tuant la bête. Mais les médecins insistent parce qu'ils veulent l'étudier. Et on va voir à un moment que, une fois qu'elle a accouché, on va nous la présenter dans une chrysalide. Elle est recouverte d'une chrysalide dont elle va se sortir avec ses ongles griffes dont elle a arrêté. Ça fait la mode des galeries Lafayette et les marques de vernis à ongles s'en servaient des griffes pour faire la publicité du vernis à ongles au moment de la sortie du film. Et donc elle va sortir et elle va constater qu'effectivement elle a un numéro sur elle. Winona Ryder arrive et c'est trop tard. Elle peut pas maintenant, ça n'a plus de sens de la tuer puisqu'elle a déjà accouché. Et donc les mercenaires ont amené des gens qu'ils ont abductés en hypersommeil pour donner en pâture aux œufs. Et Winona Ryder va leur dire, mais c'est pas bien du tout, il faut qu'on fasse exploser ce vaisseau qui risque de détruire l'humanité si jamais ces bêtes arrivent sur Terre. Donc elle exige de Sigourney Weaver de l'aider à remplir cette tâche, mais Sigourney Weaver, maintenant qu'elle a accouché, se sent plutôt plus près de sa petite famille alien. Donc, c'est toute l'histoire qu'une femme, les enfants de l'ennemi, une femme qui est imprégnée par un ennemi, risque quand même d'être plus proche de son enfant que de la société à laquelle elle appartient. Et finalement, Winona Ryder va lui permettre de recouvrer son âme et de sauver, une fois de plus, l'humanité. Donc je vous propose qu'on regarde, et si j'ai des choses à vous dire, je vous dirai dans le courant. Donc vous allez là entendre la voix de Sigourney Weaver qui dit
My mommy always said there were no monsters, no
Vous rappelez, c'était la petite fille avant.
But there are.
Donc là, voilà, ils sont très très contents d'eux, ils ont réussi à la cloner. Donc c'est les médecins biotechnologistes. Et là, c'est la césarienne thoracique. Donc ils sont vraiment comme les rois mages autour de l'enfant Jésus. Hein. Ils sont admiratifs, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Donc voilà la maman. Et voilà la petite fille.
Careful.
Jesus. Vous voyez, même Jesus est là. Je blague. Voilà, alors ça, vous voyez, c'est le côté chrysalide qui est très intéressant, qui signifie et qui est utilisé de façon plus ou moins systématique dans les films de science-fiction ou fantastique pour signaler qu'avant et après, la femme n'est pas la même. Avant, elle était une vraie humaine. Après, elle est plutôt du côté de l'animal. Donc la reproduction, toujours, la reproduction naturelle, fait régresser vers l'état d'animalité. Alors, c'est quand même très long. Enfin, c'est très intéressant d'avoir ça. Parce que quelle est l'autre raison qui ferait qu'on nous la présente comme ça ? Donc, elle a effectivement été métamorphosée par le processus même de la reproduction. Donc là, ce sont des messieurs des gens hyper abductés, kidnappés pour être donnés en pâture aux œufs d'aliens, ce qui va permettre de faire en sorte d'avoir un monsieur qui va être enceint. Donc c'est un peu comme dans le premier, on nous montre le plus qu'il est permis, le fait que les messieurs dans ce processus de reproduction là peuvent également être enceints et accouchés. Le pauvre monsieur, il va crier, hein. Là, ce sont les mercenaires qui essayent de faire exploser le cadeau. Ils se retrouvent dans la pouponnière, cette fois sous-marine. Vous avez différentes variantes de pouponnière alien, avec des aliens qui protègent les œufs. Mais ils se retrouvent englués dans cette masse d'œufs. Vous allez avoir une couronne d'œufs qui rappelle, qui a été reprise, à mon avis, par une publicité pour les eaux minérales. Il y avait des bébés qui étaient en couronne comme ça. Le côté gluant, dégoûtant de la reproduction. Donc là, en fait, Sigourney Weaver va tomber dans une fosse d'aliens. Vous avez Winona Ryder qui est là. Mais normalement, il y avait des scènes très très érotiques qui ont été coupées au montage parce que apparemment la censure aux États-Unis n'était pas prête à voir tellement ça. Parce que c'est quand même ces enfants ou petits-enfants qui sont là. Et donc, elle n'est pas du tout dans la même disposition d'esprit. Il y a une sensualité entre elle et ses enfants au point qu'elle disparaît sous leur masque. Et là, c'est l'un des biotechnologistes qui a été abducté. Il lui explique donc ce dont la reine alien a hérité. Et là, vous allez voir que la pauvre reine alien, c'est plus du tout l'eau tech comme tout à l'heure qui était super clean et qui lui permettait de vaquer à ses occupations tout en accouchant. Mais alors, womb, c'est pas le, c'est vraiment le utérus. Reproductive system. She is giving birth for you, Ripley, and now she is perfect. Là, vous voyez qu'il est très méchant, le monsieur qui parle, parce qu'il est pro-reproduction. Donc là, la description dans le livre, vous savez, il y a toujours des livres qui sont faits après le film, et de l'accouchement est absolument horrible. Elle repose, la pauvre reine alien repose sur des matières fétides, elle souffre mille morts avec son bassin étroit et tout ça. Elle va souffrir terriblement pour donner naissance à ce fils qui va être très méchant, ingrat, il va lui couper la tête. Par contre, il va trouver sa grand-mère très à son goût. Vers Ripley. À nouveau, vous assistez à un accouchement, vous avez différentes variantes de reproduction. Il va être puni tout à l'heure lui aussi. Alors donc il va arracher la tête de sa maman biologique, mais par contre il va trouver sa mère, grand-mère, père Sigourney Weaver plutôt à son goût. Les enfants sont très ingrats. Non, pour ça, il va être puni, le monsieur. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Le fils alien va le tuer, son pseudo-père. Alors, on va passer à la mutante, donc pour vous montrer effectivement comment on va être décrite donc la métamorphose pubertaire. Donc, c'est un ADN martien qui a atterri dans un laboratoire. Et au bout de 3 mois, cet ADN donne une petite fille qui est déjà prépubère. Donc, ça fait très peur quand même aux biologistes qui se disent qu'il vaut mieux l'exterminer. Et elle sent qu'elle va être exterminée, donc elle se sauve, donc elle fugue. Elle se met dans un train, elle va manger comme si elle avait une boulimie, et elle commence à se regarder, à avoir l'impression qu'elle a des gros boutons d'acné terribles. Et en fait, on va voir qu'en guise de boutons d'acné, ce sont donc des tentacules qui lui poussent sur le visage et sur les mains et qui vont la transformer en une chrysalide, d'où va sortir une femme, vraiment une bombe sexuelle, qui va chercher donc à avoir des partenaires sexuels de façon à se reproduire. C'est son seul but. Et donc, il y a une équipe qui est envoyée pour la récupérer, dont un collègue ethnologue est plutôt bête. J'en suis désolée. Mais donc, il y a une ethnologue. Et puis, il y a une dame médecin également qui est chargée donc, d'aller récupérer cette femme. Parce que si jamais elle s'insémine, il y aura plein d'aliens parmi nous et ils vont se substituer à nous. Donc, c'est terrible. Donc, il faut la rattraper. Donc, je vous propose qu'on regarde et je vous dirai au fur et à mesure les choses que je dois vous dire. Voilà, c'est la petite fille. Donc, elle a 3 mois de même pas de conception. Voilà. Et vous voyez, elle a la nette impression qu'elle est en train de se métamorphoser. De fait, hein, métamorphose, ça veut dire qu'elle passe de l'enfant stérile, inoffensive, à qui on voulait du mal, à finalement une adulte reproductrice, donc potentiellement prédatrice au niveau de la reproduction. Le film passe vraiment en boucle sur le, à la fois sur l'assise, sur le câble, donc vous pouvez vraiment le voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Et il a l'heure d'avoir un thé par Télérama, ce qui n'est pas le cas pour la mutante 2, ce qui est bien à tort. Voilà, la pauvre contrôleuse, évidemment, va faire les frais de... Donc, vous voyez, seconde renaissance avec cet aspect chrysalide, re-utérus externalisé. Et là, vous allez voir la bombe sexuelle. Alors, elle est blonde. Tout à l'heure, elle va être teinte en brune pour pas être reconnue. Ça, c'est les gens de l'équipe qui la cherchent. Elle s'est trouvée un partenaire sexuel. Et tout de suite, elle veut coucher avec lui pour se faire faire des bébés.
C'est un peu rapide.
Et vous allez voir qu'une fois qu'elle se met en phase reproduction, elle va se transformer en animal. Notamment avec le fait que c'est... Son squelette va surgir à la surface de son corps. Donc côté prolificité, côté animalité, sexe et reproduction. Donc là, c'est mon collègue ethnologue, avec elle qui est teinte en brune. Et écoutez bien le dialogue. Donc ils font l'amour. Et comme beaucoup d'hommes occidentaux, ils ne savent pas que quand il fait l'amour avec une dame, il peut mettre enceinte cette dame. Ça, c'est comme chez nous. C'est pas le cas des sociétés dans lesquelles on travaille, des ethnologues.
Sans la vie.
Oh, ma chère enfant, j'admets qu'il existe des peuplades où les femmes disent savoir à quel moment elles ont été.
Vous voyez la colonne vertébrale, le fait d'avoir des excroissances. Mais vous êtes la mutante. Et donc la voilà. Donc maintenant qu'elle est enceinte, voilà à quoi elle ressemble. Donc il y a avant, après. Avec le côté corne, ça c'est l'enfant dont elle a accouché, qui est donc un moitié humain, moitié alien. Et voilà à quoi ressemble une femme une fois qu'elle a accouché. On peut généraliser. Toute crue, toute nue. Et donc, la mutante 2, c'est la version masculine de ça. C'est un monsieur qui a été un astronaute qui a été infecté par de l'ADN extraterrestre. Et qui ne peut pas s'empêcher de faire l'amour à tout va. Là, ça commence par le fait qu'il fait l'amour à deux femmes en même temps. Elles sont immédiatement enceintes. Alors vous allez voir, les ventres explosent. Enfin, j'ai l'impression d'avoir un public quand même très initié, parce qu'il n'y a personne qui a peur ou qui se masque. C'est très, très bien. Et donc, tout de suite après, ben, on a un petit garçon qui est à côté du lit. Mais sauf que la femme, la pauvre femme, elle en a fait les frais. Elle est morte avec plein de sang. Son ventre a explosé. Et donc, il se retrouve à la tête de cette ribambelle de petits garçons qu'il va mettre à l'abri dans une cave. Et de leur nez va sortir non pas une crotte de nez, mais des filaments qui vont les transformer en chrysalide. Alors, tout au long, entre-temps, depuis la mutante, hein, on a créé une alien mi-humaine, mi-extraterrestre. La précédente, c'était une sang pure d'alien, donc très dangereuse. Tandis qu'on estime que celle qui est quand même en partie humaine va pouvoir nous aider à repérer s'il y a d'autres aliens. Et donc, cette mutante 2 qui est mi-humaine, mi-alien, on l'a dénommée, je vous le donne en mille, Eve. Elle est blonde, elle aussi. Et donc, à chaque fois que le monsieur fait l'amour, elle est dans le laboratoire, mais quand même, elle sent tout ce qui se passe et tout ça, et puis ça lui donne envie, elle aussi, de pouvoir se reproduire avec lui. Donc, à un moment donné, elle ne va pas pouvoir s'empêcher de se sauver pour aller faire l'amour avec le monsieur. Donc, ils vont se déshabiller et immédiatement, ils vont ressembler à des animaux, avec surtout constitués d'un squelette. Vous vous rappelez aussi que Alien est constitué essentiellement d'un squelette, même si ça vise à la reproduction de la chair, l'incarnation, c'est quand même le côté squelettique, comme des, à la fois signale en ce qui concerne Alien le fait qu'il y a, comme ça une silhouette quasiment de dinosaure, mais donc une espèce qui serait censée être disparue, qui est vraiment du côté de la reproduction, et en même temps ce côté prolificité. Écoutez, je vous propose qu'on regarde. Donc tout commence bien. Donc sexe et reproduction, animalité, mortifère. Voilà, la dame qui est dans la salle de bain, vous allez voir, son ventre va exploser, vous allez vraiment le voir, mais vous devez regarder, c'est pas grave parce que c'est pas vrai. Voilà, donc ça c'est Eve. Hein. Alors ça, c'est une femme astronaute qui a été aussi infectée et ce qui va sortir de son ventre va neutraliser son mari. Je l'avais gardé parce que c'est rigolo. C'est vraiment une parodie à l'intérieur même de la musique. C'est sympa. Mais là, c'est pas rigolo, par contre, du côté du monsieur. Voilà, il a encore fait l'amour et... La femme a été enceinte immédiatement pendant le coït. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Encore un petit garçon.
Mon Dieu.
Donc il l'emmène dans la cave au petit garçon. Et vous allez voir, il y a plein de chrysalides suspendues, puis il y a plein de petits garçons aussi. Un petit, plus ou moins. Voilà, processus qui font qu'il se transforme en chrysalide. Je dis souvent que les parents d'ados, ça les arrangerait bien. Et donc, de ces chrysalides sont censés sortir des prédateurs de l'espèce humaine qui vont aller inséminer les femmes pour se reproduire eux-mêmes et se substituer à notre espèce. Pour l'instant, ces garçons ne sont pas fertiles, ils sont stériles, comme tout enfant, prépubères. Et donc, on a vraiment la représentation de la métamorphose pubertaire. Là, c'est Eve qui a rejoint le monsieur. Donc, ils sont tous les deux des mi-aliens, mi-humains. Mais lui, il veut vraiment se reproduire. Et donc, vous avez ce côté ossus, squelettique. C'est tous les deux maintenant. Elle s'est refusée à lui et du coup, il va lui faire une fellation inséminante. Vous avez prévenu. Hein. Voilà, le dédoublement de la tête signifie également de signaler la super prolificité. qu'elle se refusait à lui, ayant été censée de ce que lui disait la femme médecin, de sauver l'humanité, de penser à l'humanité. Voilà, alors ça, vous avez l'idée qu'une femme, la partie basse de son corps est reliée à l'animalité. Ici, vous allez voir cette femme qui était superbe, Ève, la partie inférieure de son corps est comme celle d'une sauterelle. Et par contre, le haut de son corps, c'est une très jolie femme, montrant bien que la beauté de la femme est un appât. Vous avez un animal qui signale le côté de l'animalité de la reproduction et un petit garçon qui est déjà tout fait. Et en dépit du fait qu'elle a accouché, elle a son ventre qui continue à gonfler et qui signale effectivement ce qui se passe de femme en femme, c'est-à-dire le phénomène de la grossesse qui perdure. Donc il y a eu une Alien 3. Hein.
La mutante partie 3. Et alors, vu que la mutante 1, c'était une femme, mutante 2, c'est un homme, mutante 3, c'est qui ?
Mutant 3, il y a eu c'est en fait, il y a des expériences qui sont faites par des biotechnologistes et donc il y a des mutants qui sont dans la nature et ils n'arrivent pas à survivre et on a créé une mutante qui va pouvoir survivre avec le problème de mais si elle survit, elle risque du coup de.
On revient à une femme. Mm-hmm. Parce que c'est intéressant. Est-ce que ça fait une image miroir ? Parce que
il y a des hommes hein, dans la mutante 3. Il y a des mutants, mais ils ne survivent pas. Le seul qui va survivre, c'en est un qui est fabriqué de toutes pièces par un biotechnologiste pour elle. Mais on l'a fait stérile de façon lui dire à elle, de façon à ce qu'elle soit heureuse. On l'envoie, mais elle ne pourra pas se reproduire et du coup mettre en danger notre espèce.
Ouf. Mais donc, si dans Mutante 1, on a dans Mutante 2, on a des hommes qui produisent des petits garçons, est-ce que vous pouvez me redire dans Mutante 1, elle reproduit quoi ?
C'est un petit garçon aussi. Ce qu'on a vu, c'est un petit garçon aussi.
Non, mais je me demandais s'il y avait des histoires d'images miroirs et une politique du genre là qui se jouait.
Sûrement, mais là, c'est vrai que c'était pas sur ça que j'ai centré, mais c'est un petit garçon aussi. Normalement, il faut qu'ils fassent leur complément. Donc, en ce qui concerne la différence, c'est que justement, ce qu'on peut subodorer, c'est que lui, quand il fait des enfants avec les humaines ne sont pas suffisamment fortes pour pouvoir survivre à la reproduction de cette espèce qui est supposée être extrêmement forte. Et donc, il ne peut que reproduire quelque chose qui est comme lui. Mais bon, il faudrait.
Marika, là, t'as 9h30. Je sais pas si tu voulais passer le Starship Troopers. Ou...
Bah, je crois qu'il y avait Nathalie quand même, qui a. Non ?
Oui. Ok, bah, merci Marika.
Alors, mon intervention est un petit peu différente et même radicalement différente dans la mesure où je suis très prise en ce moment par ce qui se passe à l'instant même à l'Assemblée nationale qui n'est pas de la science-fiction et pourtant on entend beaucoup de novlang, qui n'est pas 1984 et pourtant on nous demande d'acheter des logiciels qui vont filtrer tout ce qui rentre et qui sort de nos ordinateurs et donc quelque part de faire une sorte de contrôle sur tout ce qui se passe dans nos machines. Et je trouve qu'on est à un moment relativement dramatique parce que c'est au nom des artistes, certes il y a une économie à repenser, mais c'est assez dramatique le niveau de contrôle qui est en train de se mettre en place en ce moment même. Donc je suis très prise, et c'est le fait que je m'arrache à 17h15 pour pouvoir venir des discussions qui avaient lieu à l'Assemblée nationale. Vous êtes un petit peu, juste je fais un petit point parce que je pense que c'est relativement raccord. Vous êtes un tout petit peu au courant de ce qui se passe autour de la DOPI ? Ouais, bon, d'accord, ok. Ok, donc au nom de, je le développe rapidement, au nom de la création et d'Internet, au nom des artistes et de l'économie, des industries culturelles, mais au nom des artistes vraiment, se met en place un système dans lequel de répression, qu'on appelle pédagogique, mais qui est véritablement qui est de la répression, qui fait que si vous téléchargez illégalement des documents, vous recevez d'abord un mail, et puis après vous recevez donc un mail d'avertissement, et puis ensuite une amende, et enfin on termine votre connexion Internet.